RFI, 22h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. À Rafah, dans la bande de Gaza, mouvement de foule pour récupérer de l'aide alors qu'Israël met en place une fondation censée la distribuer. Benjamin Netanyahou reconnaît une perte de contrôle momentanée. L'ONU parle de distribution en contradiction avec les principes humanitaires. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, les Palestiniens ont été victimes toute cette journée d'actions violentes menées par des colons israéliens et des soldats. En France, l'Assemblée nationale vote le droit à l'aide à mourir pour permettre à certains malades d'accéder à un suicide assisté. Le président Emmanuel Macron salue une étape importante dans le respect des sensibilités de chacun. Le texte doit maintenant passer devant le Sénat. Tennis, suite du tournoi parisien de Roland-Garros, le français Gaël Monfils affronte le bolivien Hugo Deyen, 90e mondial, qui a remporté le premier set 6-4. Le Premier ministre israélien reconnaît une perte de contrôle momentanée dans un nouveau centre de distribution d'aide de la bande de Gaza à Rafah. À cause des retards dans la distribution, des milliers de personnes se sont ruées pour prendre tout ce qu'elles pouvaient, explique un témoin selon qui les forces israéliennes ont fini par tirer pour disperser la population. L'ONU parle d'images déchirantes, de gens désespérés cherchant à obtenir de l'aide dans ces conditions que l'ONU estime en contradiction avec les principes humanitaires. Israël a créé de toutes pièces une fondation soutenue par les États-Unis pour distribuer cette aide qu'il a commencé à laisser passer à nouveau au compte-gouttes. Pendant ce temps, ce mardi, en Cisjordanie occupée, les Palestiniens ont été victimes tout au long de la journée d'actions violentes menées par des colons israéliens et des soldats. Le récit de Pierre-Olivier.
Ce mardi à Naplouse, l'armée israélienne a ouvert le feu sur plusieurs personnes, tuant l'une d'entre elles et en blessant une trentaine d'autres. À Naplouse toujours, ainsi qu'à Jenin, Toulkarem ou Bethléem, des raids simultanés ont été rapportés, des magasins de change et d'achat d'or ciblés par les soldats. Israël accuse ces commerces de financer des actions terroristes sans pour autant apporter la moindre justification. Au nord de Ramallah, dans le village de Mourayer notamment, des colons israéliens ont mis le feu à plusieurs champs et s'en sont pris à des Palestiniens physiquement. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent des flammes ravager les récoltes tandis qu'un épais panache de fumée noire s'élève dans le ciel. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères palestinien accuse Israël de fomenter ses actions violentes pour justifier la nécessité d'une annexion. Il appelle la communauté internationale à mettre un terme aux crimes de génocide, de déplacement forcé de population et d'annexion.
Pierre-Olivier, arrestation en Allemagne d'un Syrien soupçonné de crimes contre l'humanité. Les faits remontent aux années 2010 sous le régime de Bachar al-Assad. Selon le parquet fédéral allemand, l'homme a été le gardien du centre de détention Al-Khatib à Damas et aurait participé à une centaine d'interrogatoires qui ont été autant de séances de torture et qui ont abouti, selon le parquet, à la mort de 70 détenus. En Iran, sixième jour d'une grève de poids lourds, rare dans sa durée et son ampleur. Elle a commencé la semaine dernière dans une ville du sud-ouest du pays et se serait étendue à tout l'Iran. Les chauffeurs réclament de meilleures conditions de travail. Le président du Parlement iranien a souligné l'importance de ces camionneurs pour l'économie du pays et il a exhorté le gouvernement à agir rapidement. Le programme européen de défense prend forme. Ce mardi, les pays de l'Union ont adopté définitivement un accord de principe qui prévoit des prêts de 150 milliards d'euros pour financer en commun des achats et des projets d'armement. Et ce, dans les domaines où l'offre européenne est considérée comme insuffisante, production de missiles, de munitions, de drones ou encore systèmes de défense anti-aérienne. Un accord conclu pour répondre au risque de désengagement de Washington en matière de sécurité sur le continent européen, et puis aussi depuis le début de la guerre en Ukraine, à une menace militaire russe. L'Ukraine, justement. Hier, le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé que les principaux alliés occidentaux de l'Ukraine, dont Berlin, ne fixaient plus de restrictions à la portée des armes qu'ils fournissent à Kiev. Le Kremlin déplore une décision assez dangereuse. Alors quel est le message envoyé par cette annonce ? Selon Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre, il s'agit de maintenir les Européens dans le jeu, mais pas seulement.
Maintenir les Européens dans le jeu, mais aussi, si Friedrich Merz fait cette déclaration publique, c'est aussi pour mettre la pression sur Donald Trump. Parce que Donald Trump donnait des coups de pied sous la table à Vladimir Poutine, notamment avec ses frappes aériennes, contre le territoire russe, mais ne le reconnaissait absolument pas. Et finalement, c'est le chancelier allemand qui le fait à la place de Donald Trump, en lui disant quelque part, « Hein, Donald, toi aussi tu es avec nous pour aider les Ukrainiens à bombarder le territoire russe. » Et dans le contexte actuel de négociations très difficiles sur une sortie de guerre en Ukraine, c'est un message assez, comment dire, cruciale quand on voit finalement le chancelier allemand en révélant que les Américains ont, dans les faits, décidé d'augmenter la pression militaire sur la Russie de Poutine, tout en affichant leur volonté de vouloir négocier.
Guillaume Ancel, joint par Harry Milipold. Dans le nord de l'Angleterre, à Liverpool, 11 personnes sont toujours hospitalisées. Hier, en fin d'après-midi, une voiture a foncé dans une parade organisée par les fans du club de foot Liverpool FC, qui fêtait leur victoire en Premier League. Le conducteur a été arrêté. Selon la police, il conduisait sous l'emprise de la drogue. Quand le drame s'est produit, il suivait une ambulance qui se frayait un passage dans la foule. En Angleterre, toujours, de la prison ferme pour 4 militants d'un mouvement écologiste. Ils avaient été arrêtés l'été dernier alors qu'ils se rendaient à l'aéroport de Manchester pour participer à une action organisée dans plusieurs pays, Oil Kills, le pétrole tue. Il s'agissait de se coller aux pistes pour perturber le trafic, ce qu'ils n'ont pu faire puisqu'ils ont été arrêtés avant même d'arriver à l'aéroport, ce qui ne les a pas empêchés d'écoper de 18 à 30 mois de prison ferme. Aux Pays-Bas, le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders menace de démissionner si le gouvernement ne durcit pas sa politique migratoire. Et le député dispose d'une majorité au sein de la coalition gouvernementale néerlandaise qui va du centre droit à l'extrême droite. Geert Wilders qui a présenté une série de 10 mesures pour lui non négociables. Lila Olkinuora.
Pour dramatiser son annonce, il a convoqué une conférence de presse au dernier moment. Geert Wilders a tapé du poing sur la table.
La limite a été atteinte, la limite du Parti pour la Liberté a été atteinte, tout comme celle de nombreux Néerlandais. Notre parti n'a pas signé pour un cabinet qui permettrait d'ouvrir davantage de centres d'asile. Les Pays-Bas doivent redevenir les Pays-Bas.
Pendant plus d'une heure, le dirigeant du parti d'extrême droite, le Parti pour la Liberté, a dressé la liste de ses conditions, parmi lesquelles l'arrêt total de la procédure d'asile et l'expulsion des binationaux reconnus coupables d'un crime. Geert Wilders a fini par lancer un ultimatum.
Nous voulons que ces mesures soient approuvées rapidement, en quelques semaines tout au plus, et que leur mise en œuvre par le cabinet commence. Les Pays-Bas l'attendent et le Parti pour la Liberté n'attendra pas plus longtemps.
Pour l'opposition, c'est un spectacle politique. Pour les autres partis de la coalition, il s'agit surtout d'une diversion face à l'inaction de la ministre de l'Asile, issue justement du parti de Geert Wilders. Ce n'est pas la première fois que le député extrémiste ordonne à la coalition d'accélérer sur les questions migratoires. Jusqu'à présent, il n'a pas mis ses menaces à exécution. Mais s'il quittait le gouvernement, il pourrait déclencher une crise politique, sachant qu'il avait fallu 224 jours pour négocier la coalition actuelle.
En France, l'Assemblée nationale vote en première lecture le droit à l'aide à mourir. 305 députés pour, 199 contre. Cette aide à mourir permettra à certains malades d'accéder à un suicide assisté. C'est une étape décisive pour cette réforme évoquée depuis des années en France. Le président Emmanuel Macron salue une étape importante dans le respect des sensibilités de chacun. Le texte sur les soins palliatifs avait été adopté peu avant, cette fois à l'unanimité. Direction maintenant la porte d'Auteuil pour la suite du tournoi de tennis de Roland-Garros. Le français Gaël Monfils, 42e mondial, joue en session de nuit sur le court Philippe Chatrier face au Bolivien Hugo Deyenne, 90e mondial. Babacar Diarra, vous êtes porte d'Auteuil. Gaël Monfils est à la peine dans le troisième set.
Ouais, il est mené à 2-7-0. Gaël Monfils, il donne tout, il s'arrache, mais il est à la traîne. 2-7 de retard, perdu 6-4, 6-3 face au Bolivien. Hugo Deyenne, pas impressionné par les Gaël qui résonnent sur le court Philippe Chatrier. La Monf, lui, ne joue plus à 100% depuis le cinquième point de ce match. Et cette chute où il a vu sa cheville tourner avant de voir son corps tomber dans les panneaux publicitaires. Sur certains points, le tricolore de 38 ans est parvenu à enflammer les supporters en allant puiser dans ses ressources. Ses supporters, ils voudraient voir la soirée s'étirer le plus longtemps possible. Mais pour le moment, mon fils, on sent qu'il ne peut pas exprimer l'entièreté de ses capacités. Il est en passe de remporter une balle de break. Là, on va peut-être avoir le temps de la suivre. Et si vous avez un peu de temps, on est à 1-0 en faveur du français dans la troisième manche. Chez les supporters qui poussent le français Gaël Monfils, alors que Hugo Deyenne va servir dans quelques instants.
Bah écoutez, merci Babacar Diarra en direct de la porte d'Auteuil à Paris pour ce Roland Garros. RFI 22h10 à Paris, 20h10 en temps universel. On suivra évidemment la suite de ce match dans nos prochaines éditions sur RFI.